Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Frédéric Maury.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric Maury.
Bonjour Jean-Pierre.
Heureux de vous retrouver. Nous recevons Abbas Jaber. Bonjour Abbas Jaber.
Bonjour.
Abbas Jaber, vous êtes le président du conseil d'administration du groupe Advance Géocoton, une société spécialisée en particulier dans le négoce du coton, vous nous en direz plus, et dans la logistique. En deux mots, Advance, c'est quoi ?
Alors, Advance a été créé en 1988 par moi-même. À l'origine, j'étais trader dans une autre vie. Et donc, le groupe Advance, au départ, était une entreprise de trading et qui a évolué au début des années 2000.
Le trading, c'est quoi ?
Le trading, c'est le commerce de matières premières agricoles.
D'accord. Et donc, qui a évolué ?
Et qui a évolué à partir des années 2000 vers l'industrie.
Alors, vous êtes né à Thiès, au nord de Dakar, ou né à Dakar ?
Je suis né à Dakar, mais j'ai vécu à Thiès.
Né à Dakar, au Sénégal, dans une famille d'origine libanaise, et vous avez aussi la nationalité française, dans ce monde où on parle beaucoup, de plus en plus, de frontières, même de murs, de nationalisme. Cela peut paraître original. Vous êtes à la fois du nord, la France, du
Absolument.
Sud, le Sénégal, de l'Orient, le Liban.
Absolument.
Quels sont vos liens avec ces trois pays, et comment est-ce que vous vous organisez dans ce rapport international ?
Alors, c'est tout à fait ça. Je suis à cheval sur trois continents, trois cultures, et je n'ai pas choisi. Je suis né de parents libanais, donc le droit, c'est mes origines libanaises. Je suis né à Dakar en 1958, et Dakar était une commune française. Donc je suis né français. Et quand je suis venu m'installer en France, il a fallu que je fasse une demande de réintégration à la nationalité française. Et je suis bien entendu sénégalais par le droit du sol. Et je suis très très attaché au Sénégal, bien entendu. Je parle couramment le Wolof. Et voilà.
Et vous parlez l'arabe ?
Je parle l'arabe. Je ne l'écris pas, mais je le parle. Je parle bien entendu le français, qui est ma langue maternelle et ma langue d'éducation.
Et vous sentez appartenir à ces trois pays, à ces trois cultures ?
Absolument, absolument. Je le revendique. Et quand j'avais 18 ans, et que, vous savez, à cet âge-là, tous les jeunes se cherchent, etc. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur qui était un peu plus âgé, qui devait avoir 35-40 ans. Et je lui parlais justement de mes trois origines et qu'il fallait choisir, etc. Et il y a eu un déclic parce qu'il m'a dit... Une pierre précieuse d'une seule couleur est très jolie, mais quand elle a plusieurs couleurs, elle est aussi belle. Et là, il y a eu un déclic dans ma tête et je me suis dit que ces trois cultures, que ces trois, langues, que ces trois nationalités étaient plutôt une force. Et ça m'a beaucoup servi d'ailleurs par la suite. Parce que quand je me suis installé en France, dans le trading, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai perçu l'Afrique différemment que mes autres confrères traders. C'est-à-dire que j'ai vu ce qui s'est passé, dont on va parler tout à l'heure, l'agriculture. J'ai vu ce qu'il allait se passer dans l'agriculture en Afrique. Et j'ai eu...
Ça vous donne une anticipation, une compréhension plus
exactement, grande. Exactement. Parce que tous les autres traders, ils sont installés à Londres, à Genève, à Paris ou à New York. Ils ne connaissent absolument rien à l'Afrique. Et moi, venant de ce continent, ayant l'Afrique dans ma chair, dans mon histoire, etc., j'ai perçu la chose complètement différemment qu'eux. Et ça m'a beaucoup aidé dans le métier que j'ai pratiqué, où j'étais parmi des géants.
Lesquels ?
Alors les grands ABCD, Eddie Mbangui, Cargill, Dreyfus et d'autres. Hein. Ouais. Et puis des groupes français comme Sucré d'Enré, comme Bosch, etc., etc.
Alors encore un mot sur votre histoire personnelle. Qu'est-ce qui explique que votre famille libanaise soit arrivée à Dakar ?
Alors mon père, en fait, est arrivé au Sénégal à l'âge de 13 ans, en 1924. Et je ne sais pas, vous devez le savoir certainement, il y a eu une vague d'immigration du bassin méditerranéen vers le Nouveau Monde. Ce qu'on appelait le Nouveau Monde à l'époque, c'était l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et c'était l'Afrique aussi. Donc, arrivé à Marseille, il allait rejoindre sa famille, ses sœurs qui étaient installées en Argentine. Et arrivé à Marseille, les autorités françaises qui avaient besoin d'un intermédiaire entre les agriculteurs et les grands comptoirs français, Morel et Prom, CFAO et tous les autres, ils avaient besoin donc d'un intermédiaire. Et c'est là que toute la vague de Libanais qui allaient vers l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud a été détournée vers l'Afrique noire.
Alors on va continuer à parler de ça au cours de l'émission. Nous parlerons coton, nous parlerons agro-industrie avec Atatou Diem, une industrielle malienne que nous entendrons dans la deuxième partie de l'émission.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Une première question de Frédéric Maury.
Alors, Abbas Jaber, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé donc à la fin des années 80, vous avez créé Advance à la fin des années 80. Tout d'abord dans le négoce, c'est votre métier d'origine, le trading, ce que vous avez appelé le trading, c'est-à-dire le négoce de matières premières agricoles. Comment est-ce que voilà quelqu'un qui est né à Dakar, qui a vécu à Thiès, au Sénégal, peut finalement arriver à se développer dans un secteur qui est, à l'époque, et toujours encore d'ailleurs, dominé par des grands acteurs internationaux comme Dreyfus, vous en parliez tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait ce saut du Sénégal jusqu'au négoce international?
Alors, d'abord, je voudrais dire que Dreyfus est un groupe ami avec qui je...
Louis Dreyfus,
Commodities. C'est un groupe ami avec qui nous avons d'excellentes relations et avec qui...
Un groupe très secret qui ne se répand jamais dans les médias.
Probablement. Mais voilà.
Alors, comment est-ce qu'on fait ce saut, justement,
alors,
du Sénégal?
Si vous voulez... Justement, le fait d'être venu d'Afrique, le fait de connaître la réalité africaine, le fait d'être tout simplement aussi de parents commerçants, le fait d'aimer la France, le fait d'avoir une espèce de connotation sociale et un peu créative, hein, je pense que c'est ce qui m'a aidé à, pas m'imposer, mais en tout cas m'installer dans ce domaine. Et j'ai eu une idée à l'époque, mais elle est venue avec la pratique. Je me suis dit comment concurrencer et me battre contre des concurrents qui sont mes fournisseurs, c'est-à-dire en achetant de la farine, du sucre ou du blé à ces géants et en les vendant en Afrique, comment je pouvais être compétitif. Et j'ai compris une chose, c'est que dans la valeur d'un produit alimentaire, d'une matière première alimentaire qui arrive en Afrique, la valeur même de la matière première, elle représente à l'époque 30 à 40%. Et le reste, plus de 50%, était toute la partie logistique, c'est-à-dire le transport maritime, le transport terrestre, le stockage, la distribution, etc. Or, la matière première était cotée sur les marchés à terme, et là, vous ne pouvez pas acheter un produit à un prix différent que celui de sa valeur cotée.
Dans les marchés à terme, il faut expliquer que c'est des grandes places boursières à Londres.
Voilà, ce sont des places boursières,
Chicago, etc.
Voilà, qui sont déterminées, voilà, définies.
Très spécialisées,
absolument.
Et très pointues, où il est très difficile d'intervenir. Où le vulgum pecus, le citoyen lambda, a beaucoup de mal à intervenir parce qu'il faut des fonds très importants.
Parce que ce sont des prix qui dépendent en fait de l'offre et de la demande. Et voilà. Et j'ai compris que il fallait agir sur la logistique, le transport. Et mes concurrents à l'époque, ils chargeaient 1000 tonnes de sucre ou 2000 tonnes de sucre sur des navires d'ailleurs de français hein, qui desservaient l'Afrique. Et moi, j'ai eu l'idée de grouper, de faire des groupages et d'affréter des bateaux de 5, 10 000, 15 000, 20 000. Et je suis arrivé, mon record, ça a été des bateaux de 35 000 tonnes. Avec 5 produits à l'intérieur, donc de l'huile, du sucre, de la farine, du blé et d'autres produits comme le riz, etc. Et de réduire le coût du fret maritime. Et ça m'a permis d'être compétitif vis-à-vis de mes fournisseurs, entre guillemets, concurrents. Et évidemment, l'écart de prix, je l'ai partagé avec qui ? Je l'ai partagé avec mes clients. J'ai dit à mes clients, voilà, je fais une marge, j'arrive à réduire le coût de la marchandise d'un certain nombre de dollars à l'époque, parce que les matières premières étaient cotées en dollars, et le sont toujours. Et j'ai partagé cela avec mes clients qui eux-mêmes l'ont partagé avec les consommateurs. Et en fait, mon arrivée dans ce domaine a considérablement révolutionné en quelque sorte ce marché.
Vous voulez dire que vous avez contribué à réduire les prix alimentaires en
absolument,
Afrique ?
Absolument, absolument, en son temps, oui.
Et est-ce que le fait, vous êtes aussi, on disait tout à l'heure, d'origine libanaise, il y a une communauté libanaise très importante en Afrique,
hein, oui,
dans
oui.
la plupart au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup Bien de sûr. Pays africains. Est-ce que ça aussi, ça vous a aidé? Est-ce que vous avez fonctionné, en fait, avec cette communauté-là? Est-ce que c'est des réseaux qui ont aidé dans les années 90
alors,
pour se développer?
Alors, non, pas vraiment, parce que mes clients étaient mauritaniens, sénégalais, maliens, parfois libanais, très peu, mais parfois. Mais, si vous voulez, bon, pour revenir sur les Libanais, les Libanais ne sont pas tous commerçants. Hein, il y a des Libanais qui sont dans les professions libérales, qui sont avocats, médecins. Et puis, l'image selon laquelle les Libanais sont tous riches, elle est complètement fausse. Hein. Il y a des Libanais qui sont pauvres, il y a des Libanais qui sont dans des situations modestes. Mais, et pour revenir sur les Libanais, parce que je prends la balle au vol, les Libanais sont totalement intégré en Afrique, donc je ne faisais aucune différence entre un interlocuteur libanais ou africain ou français d'ailleurs, voilà.
Mais à Paris, est-ce que le fait d'avoir ses origines, d'être à la fois un peu libanais, un peu sénégalais, ça vous a compliqué la vie?
Est-ce que Écoutez, la vie est tellement compliquée, même pour un Français de souche, etc. Moi, je l'ai pris plutôt comme une force, et ça a
On emploie cette expression "Français de souche" avec beaucoup de guillemets, n'est-ce pas?
Ben oui, évidemment, puisque vous m'avez dit le fait d'être un peu sénégalais, un peu libanais, un peu français. Je suis beaucoup sénégalais, beaucoup libanais et beaucoup français. Ça, j'aime le dire et je le revendique.
Oui, mais est-ce que ce que veut dire Jean-Pierre, c'est est-ce qu'à Paris, le fait que vous arriviez comme ça dans le négoce et que vous soyez libanais, sénégalais avec des origines assez diverses dans un milieu qui était plutôt international, est-ce que ça a été bien perçu, mal perçu? Est-ce que
milieu, on va dire les choses autrement, très blanc, anglo-saxon.
là, c'est vous qui parlez de couleur et de.
Oui, mais bon, je l'assume là.
Alors,
un milieu très homogène.
Écoutez, donc je le répète, la vie est tellement dure hein, pour quelqu'un, pour un jeune. À l'époque, j'avais 30 ans, j'avais 5-6 ans d'expérience au sein d'une société en tant que collaborateur. De créer sa propre entreprise, de pouvoir s'imposer dans un monde qui est terrible, hein. C'est tellement dur. Maintenant que j'ai eu des difficultés parce que j'étais, comme vous le dites, un peu libanais, un peu sénégalais, un peu français probablement, mais je suis arrivé un peu comme un nouveau. Je n'étais pas le fils de quelqu'un qui avait 50 ans ou 100 ans de voilà. Alors, je prends comme ça. Et cela, plutôt, s'il y a eu difficulté, cela a plutôt renforcé ma combativité et ma créativité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Abbas Jaber, vous avez repris une vieille société cotonnière française qui s'appelait jadis la CFDT, la Compagnie Française des Textiles. Puis d'Agris, enfin, la CFDT, c'était un héritage de la colonie, puis d'Agris, que vous avez rebaptisé Géocoton. Pourtant, la première mesure que vous avez prise quand vous avez racheté d'Agris, ça a été un plan social. Pourquoi?
Alors, ça a été également une expérience difficile et extrêmement éprouvante hein, pour moi, parce que je ne veux pas revenir sur le passé, hein, bien entendu. Mais je rappelle quand même que l'entreprise, quand je l'ai prise, elle perdait 50 millions d'euros par an, les trois dernières années. Elle avait perdu la totalité de son cash. Elle avait l'équivalent de 200 millions d'euros de cash qu'elle avait perdu. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Bercy a décidé de vendre...
Le ministère des Finances.
Le ministère des Finances a décidé de céder cette entreprise, de la privatiser.
Parce que c'était une entreprise publique.
Absolument, c'est une entreprise publique. Et à l'époque, moi, si vous voulez, du haut de mes 40 ans et de mes 15 ans d'expérience dans le trading en Afrique, j'avais compris que le coton allait retrouver ses lettres de noblesse. J'avais compris que l'agriculture allait un jour revenir vers l'Afrique, hein, donc que l'Afrique qui avait été submergée par tous les produits agricoles, tous les excédents européens, américains, asiatiques, allait retrouver un jour, voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Et le plan social pour revenir, je tiens à vous dire quand même que je n'ai pas eu un article dans la presse, que il n'y a pas eu le moindre conflit.
Pas eu d'article dans la presse parce que Dagry, ce n'est pas une grosse structure, une énorme structure. Et donc,
probablement. Les médias ne s'y en sont tout cas, pas il n'y a intéressés. Eu aucun remous. Ça s'est fait humainement dans les règles de l'art. Et ce qui a permis de sauver tous les autres emplois. N'oubliez pas quand même que j'ai 2700 employés et le plan social, il était de l'ordre d'une. Moins de 100 personnes, quoi, 80 personnes. Donc pour sauver 2700 personnes et pour sauver l'agriculture et les cotonculteurs africains et continuer à exister, une entreprise qui a 70 ans, avec une filiale Copaco qui a 155 ans, qui est une des entreprises les plus vieilles dans le commerce du coton, c'est vrai que la barre était haut et il a fallu faire un sacrifice.
Est-ce que vous diriez que Géocoton va mieux aujourd'hui qu'à l'époque où vous l'avez récupéré? C'était en 2008, c'est ça?
Fin 2007, fin début 2007. 2008, absolument.
Est-ce que vous diriez que ça va mieux? Parce que beaucoup de gens disent non, ça va moins bien finalement qu'à
l'époque. Allez, recrutez, vous verrez les comptes, ça va beaucoup mieux. On doit faire entre, bon an, mal an, entre 10 et 18 millions d'euros d'EBITDA.
Ça veut dire quoi, ça?
C'est-à-dire que les marges que nous faisons aujourd'hui, pour être simple avec les auditeurs, sur un chiffre d'affaires groupe aujourd'hui de 250 à 300 millions d'euros selon les années, nous faisons à peu près une marge brute de l'équivalent de 15 millions d'euros. Géocoton n'est pas endetté. Géocoton a un savoir-faire, Advent Géocoton a un savoir-faire extraordinaire, unique.
C'est une marge de 5%, c'est considérable?
Oui, c'est bien évidemment. On vient d'une marge négative de plus de 10%. Donc, évidemment, ce sont les ratios aujourd'hui qui sont tout à fait acceptables. On parle du Sénégal.
Voilà. Au Sénégal, tous les auditeurs vous connaissent pas parce que voilà. Mais il y a un pays quand même où votre nom est très connu, c'est le Sénégal. Voilà, vous avez souvent fait la une des médias, etc. C'est pas toujours pour des raisons très positives pour vous d'ailleurs. On peut dire qu'au Sénégal, votre image n'est pas très bonne. Une des raisons pour lesquelles cette image n'est pas très bonne, c'est l'histoire de la Sonacos, donc l'ex-société publique des arachides, de l'arachide, que vous avez reprise en 2005, que vous avez rebaptisé Sunéor et puis qui est redevenu Sonacos après. On vous reproche souvent d'avoir un peu coulé cette entreprise et qu'aujourd'hui ce soit une entreprise moribonde du fait de cette privatisation.
Alors je ne souhaite pas, si vous le permettez, monsieur Maury, m'exprimer sur ce sujet. Vous comprendrez, nous sommes actuellement en voie de règlement de notre sortie de Sunéor avec l'État sénégalais. Et bien évidemment, je me dois de respecter la clause de confidentialité qui me lie à l'État du Sénégal.
Donc en fait, l'État du Sénégal a repris la société Sonacos,
voilà,
c'est ça,
enfin, d'un commun accord, oui. Le Sénégal m'a demandé de lui céder l'entreprise. Et actuellement, nous sommes en cours de règlement.
C'est pas fait encore.
Non, ça n'est pas encore fait.
Expliquez-nous le processus. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette société? Pourquoi en sortir?
Alors, je veux bien parler de la filière, des filières agricoles en Afrique, je veux bien, mais je ne souhaite pas, encore une fois, monsieur Boris, m'exprimer sur le sujet.
Ça pourrait gêner vos négociations?
Écoutez, non, je suis tout simplement lié par un accord de confidentialité. Voilà. C'est tout simplement du droit, c'est une question de droit.
Il y a un autre dossier, entre guillemets, sensible au Sénégal, c'est le dossier Transrail. Mmh. Donc, Transrail, c'est le chemin de fer qui relie Dakar à Bamako, dont vous avez eu aussi la concession pendant un certain nombre d'années et qu'on vous a retiré en 2015, je crois. Que l'État vous a retiré de manière assez brutale. Qu'est-ce que ce dossier Transrail qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi est-ce que finalement on vous a retiré ce dossier?
Monsieur Maury, je vous refais la même réponse. Je suis tenu par un accord de confidentialité avec le gouvernement du Sénégal et je ne souhaite pas m'exprimer encore une fois sur ce sujet.
Alors, ces accords de confidentialité, on va en reparler dans la deuxième partie de cette émission, puisque pour l'instant, nous laissons la place à un flash d'actualité. À tout de suite.